Hello.
Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Comics Weekly, épisode numéro 18. Les sorties de la semaine du 15 septembre.
Oui.
Enfin, sorties comics en tout cas.
Oui, on va pas faire les sorties ciné. On s'est dit, oh non, ça ferait trop de boulot. On a déjà suffisamment comme ça.
Donc, comme d'habitude, du DC, du Marvel et deux indés. Et vous verrez lesquels c'est plus tard.
Voilà.
Pour l'heure, on va commencer avec le numéro du podcast, comme chaque semaine.
Ah oui, bah
Donc,
je te laisse y aller.
épisode numéro 18, j'ai choisi cette semaine le Man of Steel, Superman de Man of Steel numéro 18, qui date de décembre 1992. Au scénario, il y avait Louis Simonson, au dessin John Bogdanov et à l'ancrage Dennis Janck, qui c'était donc le premier épisode de l'arc Doomsday, avec
Ah oui.
justement Doomsday qui sort de sa prison et qui commence à tout détruire sur son passage.
Voilà, et après c'était parti pour 2 ans.
Et à la mort de Superman, son retour, etc. Donc voilà, un épisode quand même assez important dans l'univers de Superman. On avait déjà plusieurs mois auparavant le poing qui frappait constamment contre cette prison de métal et qui petit à petit réussissait. Enfin, on voyait le gant. Enfin, il avait un espèce de costume tout autour de lui qui lui recouvrait
Oui,
le
avec des
visage et
bandelettes
tout.
et des espèces de lunettes
Voilà, c'est ça.
télescopiques.
Exactement. Et donc il avait le poing qui était couvert par son costume, et à force de frapper sur le mur, le poing se déchire, on voit les griffes, on voit sa peau en dessous, mais on ne le voit toujours pas. En tout cas, dans le premier épisode, on ne le voit toujours pas. Il est toujours recouvert par son costume. Voilà. Donc c'est un épisode qui, malgré tout, laisse démarrer quelque chose qui va devenir un assez gros event pour l'époque.
Oui,
À
le
tel point
gros
que...
event
Ouais.
Superman des années 90 peut-être quasiment.
À tel point que toutes les chaînes parleront dans leur journal de la mort de Superman.
Oui, comme ils ont parlé de la mort de Captain America un petit peu, bien des années plus tard.
Voilà. Quel est ton numéro 18, Benny?
Eh bien, alors moi j'ai pris Fable 18. Alors bon, bah Fable 18, c'est pas une histoire qui révolutionne l'univers de Fable. C'est au fait un one shot, un peu comme l'épisode 11. C'est le second one shot au fait de l'histoire de Fable, quoi, on va dire. Donc c'est une histoire où au fait Big Beowulf raconte à Gobeur de Mouche, à Gobe-Mouche en français d'ailleurs, et à Flycatcher en anglais. Au fait une histoire à propos de la vie des Lilliputiens.
Ouais, excellent épisode ça.
Donc encore un épisode bien sympathique. Donc c'est vraiment le type d'épisode one shot qui fait tout le charme de Fable. Enfin, il n'y a pas que ça, mais je veux dire, ça constitue aussi le charme de cette série. Et puis voilà, un épisode assez marrant donc pour une série qu'il est tout autant, quoi. Vraiment une très bonne série. Donc on vous renvoie au spécial, par exemple.
Oui, voilà.
Et donc lisez Fable, quoi. Si vous ne vous y êtes pas encore mis. Voilà.
Bien, et ben sur ce, on va attaquer la section news. Je te laisse commencer, Benny, parce que tu as
Ouais,
pas mal de petites news à
pas
nous
mal de
lancer.
news. Alors, mais par contre, comme tu veux, on commence par DC ou par Marvel?
Commençons par DC, tiens.
Par DC. Eh ben alors, une news qui va te faire sourire. Le Superman 704 sera déjà un tie-in, en fait, sera déjà un interlude, on va dire. D'ailleurs, ça s'appellera peut-être même que c'est le titre d'ailleurs de l'épisode. Donc Straczynski ne l'écrira pas, ce sera G. Willow Wilson au scénario et Leandro Oliveira au dessin.
D'accord.
Avec John Cassaday toujours aux couvertures. Voilà, Superman marche, et ben là il fait une petite halte parce qu'il marche trop vite. Il est déjà essoufflé au bout de 3 épisodes. Non mais au fait, voilà, donc au fait, il faut expliquer, au fait, il y a déjà du retard pour le Superman 703 parce que malheureusement Straczynski a des petits soucis de santé. Donc voilà. Donc du coup, il est un petit peu en retard, on espère que ça va pas durer trop longtemps et qu'il va vite se remettre. D'autant que on a aussi un visuel au fait du Superman Earth One qui devrait débarquer dans quelques temps. Avec Shane Davis au dessin et donc Straczynski au scénario. Ça, je l'attends avec impatience quand même.
Bah oui, voir ce que ça peut donner, le mythe de Superman totalement revisité par Straczynski.
Voilà, tout à fait. Donc bon, je sais pas si tu te remettras à Superman, la série classique, on va dire.
Pour le moment, j'ai toujours pas lu le 702.
Ouais, bon, enfin, de toute façon, justement, on te laisse le temps, t'as vu, il est sympa en plus. Donc voilà, t'auras tout le temps de le lire. Autre petite news d'essai, il va y avoir un one shot en novembre par Howard Chaykin, donc que tu adores. Un
Ça
one
va,
shot.
moi je ne déteste pas trop Watchy.
Ouais, alors un one shot dans la couverture est plutôt sympa. Je mettrai le lien également. Catwoman, Batman, donc un one shot sur Catwoman et Batman, enfin sur leur relation, peut-on dire. Ça pourrait être sympa. Voilà. La couverture donne envie en tout cas, et du Howard Chaykin, bah de toute façon ça plaira à beaucoup de monde à mon avis, puisque voilà, il a aussi.
Ah, il est pas mal décrié quand même.
Oh, il a aussi beaucoup de fans quand même. Donc Howard Chaykin, c'est notamment Black Keys, hein, je crois que c'était. Chez
Oula, tiens. Alors là, bonne question.
Je crois que ça s'appelait Black Keys. Ce truc un petit peu érotique. Ressorti il y a pas longtemps chez Milady, il me semble, en français. Voilà. Bon, enfin. Donc, bah, c'est tout pour les news DC. Donc, on va passer aux news Marvel.
Moi, enfin, j'ai juste une petite news DC à rajouter. Un petit ovni que j'ai vu passer dans les sollicitations du mois de décembre. Je regarde pas trop les sollicitations d'habitude. Et là, je suis tombé dessus et pour le mois de décembre et donc pour Noël, sortira le 29 décembre un Green Lantern Larfleeze Christmas Special.
Ah, c'est le truc fait par Jeff Jones, là.
Voilà, écrit par Jeff Jones et dessiné par Brett Booth. Donc un numéro spécial consacré à Larfleeze sur le thème de Noël. Je sais pas, ça peut être super drôle comme ça peut être un total ratage. C'est un one shot de toute façon. Voilà.
Oui, puis voilà, c'est un bonus pour Noël, quoi.
Donc ça, je pense que je me le prendrai quand il sortira parce que c'est plutôt intéressant. En
À
tout
mettre au
cas,
pied du sapin.
avec un thème comme ça, on verra ensuite.
D'accord. Eh bien justement, tu fais bien de parler de très belle transition, mois de décembre, et donc au mois de décembre, chez Marvel, ce sera l'arrivée d'une nouvelle série mensuelle, enfin, pas vraiment une nouvelle série au fait, puisque ce sera Black Panther, The Man Without Fear, 513, donc, en fait, bah tu l'as compris, ça veut dire que Black Panther, un petit peu comme Hercule qui avait remplacé Hulk dans sa propre série, hein, puisqu'Incredible Hulk c'est devenu Incredible Hercule, et ben là, Daredevil The Man Without Fear va devenir Black Panther The Man Without Fear à partir du numéro 513 en décembre. Le scénario sera de David Leiss, donc ça ne me dit pas grand-chose,
Moi non plus. Non.
et au dessin on retrouvera Francesco Francavilla, voilà,
Je ne connais pas
donc
non plus.
que je ne connais pas non plus, moi aussi. Et le truc, c'est que bah pour combien de temps Black Panther va-t-il remplacer Daredevil dans sa propre série? À mon avis, ça va être un petit peu comme Hercule. Ça va pas non plus durer
Bah, Hercule a duré comme un
éternellement.
sacré paquet de temps, puisqu'il a pris au numéro 113, je crois, et il a été jusqu'au numéro 141.
Ouais, mais alors faut voir si ça fonctionne, j'allais dire, aussi bien avec Black Panther,
Moi, je ne pense pas.
surtout que Daredevil, à mon avis, pourrait revenir plus vite que Hulk n'est revenu, puisque Hulk, en fait, n'était pas parti. En fait, il avait sa série annexe, on va dire. Il avait Hulk, il avait aussi Scar. Enfin bon, il y avait d'autres séries sur l'univers de Hulk en même temps. Donc bon,
Bah là, en
voilà.
même temps, on aura Daredevil Reborn.
Là, on va avoir Daredevil Reborn par Andy Diggle, donc de janvier à avril normalement, puisque c'est en 4 numéros. Et du coup, peut-être que Black Panther fera juste l'intérim pendant 4 mois, quoi, en fait.
C'est possible. Mais
Ou pas.
enfin, je sais pas. Moi, déjà, le spoil de la part de Marvel, je trouve ça un petit peu abusé. Shadowland n'étant même pas encore terminé, on nous annonce déjà qui va remplacer Daredevil dans sa propre série. On nous laissait sous-entendre que Daredevil s'arrêtait au 512, qu'il y aurait une nouvelle série Daredevil qui reprendrait. Finalement, c'est donc Black Panther de Man Without Fear. Bon, je sais pas. En plus, le choix de Black Panther, alors où est-ce que ça va se passer? Est-ce que Black Panther va devenir le nouveau gardien de Hell's Kitchen? Est-ce que ça va se passer au Wakanda?
À mon avis, il va devenir le nouveau gardien de Hell's Kitchen, hein, selon les. Enfin, les teasers montrent un Black Panther à Hell's Kitchen, quoi.
Quelle est la légitimité de Black Panther dans Hell's Kitchen? Aucune,
Oui,
quoi. Enfin.
ouais. Et surtout que, comme je te disais donc avant l'enregistrement, on le voit quasiment pas dans Shadowland. On le voit même pas d'ailleurs, à de mémoire, la preuve.
Pour le moment, je crois pas qu'on l'ait vu, non.
Voilà.
Mais à la rigueur, Luke Cage aurait eu plus de légitimité, puisqu'au début, il était protecteur de son quartier, etc. Donc, à la rigueur, quitte à choisir un héros pour le remplacer, voilà, j'aurais plus choisi Luke Cage, mais
Ben alors
bon, il est
attention,
tellement pris.
si Marvel est intelligent, ils vont peut-être nous faire aussi la surprise que ce n'est pas le Black Panther que l'on croit.
Ouais, peut-être.
peut-être que ce sera justement Luke Cage qui pourrait devenir le Black Panther de Hell's Kitchen, quoi.
Ah, mais ça changerait beaucoup de choses, puisqu'il est dans les New Avengers, puisqu'il est chef d'équipe, il est dans les Thunderbolts. Enfin, ce serait quand même assez gros. Donc, ouais, bon, je sais pas.
À voir ce que ça donne. Sinon, autre teaser pour décembre toujours, avec un teaser X-Men, où,
Ouais.
Voilà,
Ouais.
Tu l'as vu aussi,
Oui,
c'est
oui,
marqué
oui.
All New, All Different, et au fait, tu vois d'anciens X-Men comme l'épervier.
John Protstar, le frère de Warpath.
Voilà. Tu vois aussi le hurleur.
Banshee. Alors, on voit un multiple man. Alors, je sais pas trop
Oui.
pourquoi on voit l'homme multiple. Il n'est pas mort. Donc, je
Ah
comprends
ouais,
pas trop.
à moins que Marvel se soit encore gouré et que il va mourir et que.
Alors, est-ce que ce serait un de ces doubles qui serait mort et qu'on ressusciterait? Peut-être, mais enfin, ça paraît bizarre, quoi. Surtout qu'il a le costume époque X-Factor.
Ouais. Donc
Et puis on voit aussi deux Cocoos.
ouais.
Voilà, je sais pas. Blackest Night chez les X-Men.
Bah, Blackest Night chez les X-Men, peut-être parce que avec Chaos War, on l'a vu dans les teasers aussi, dans les sollicitations, il y avait pas mal d'anciens personnages morts qui apparemment vont ressusciter.
Alors ouais, est-ce un tie-in à Chaos War ou pas? Je sais pas.
Moi, je pense que ça aura un lien, quoi, quand même. Sans pour autant que ce soit forcément un tie-in, et c'est peut-être
Le
juste
problème, c'est
une
qu'avec
série,
X Necrochat, qui est paru il y a quoi maintenant, qui est terminé il y a 6 mois à tout péter,
en fait. Ouais.
ça fait un peu redondant, quoi.
Oui, mais on va te dire que X-Necrochat, c'était plus ou moins des vampires mêlés aux zombies. Là, c'est différent. Là, c'est ouais. Enfin, de toute façon, non,
Ouais, enfin, puis
c'est
bon,
trop la même
enfin,
chose.
je veux dire, le concept Blackest Night, quoi.
Oui.
Merde. Faut pas déconner. Enfin, DC ayant sorti son énorme crossover il y a de ça 6 mois, voilà, il aurait peut-être fallu nous laisser un peu le temps d'oublier avant de nous sortir un truc dans le même genre. Je sais pas, mais
Ouais.
Marvel, c'est plus ce que c'était,
Non, mais on dirait des vieux. Moi, j'ai vu ce que c'était, Marvel. Eh bien, oui, non, mais c'est vrai que voilà, c'est malheureusement le trop plein de teasers tue la série, quoi. Voilà. Peut-être qu'on aurait mieux apprécié tout ça sans être autant teasé. Et on continue sur les teasers, toujours en décembre. Donc, décidément, décembre, c'est le mois des retours, puisque en décembre, on pourrait avoir un retour avec peut-être une série des Heroes for Hire. Donc,
Après s'être formé dans Shadowland un peu contre leur gré.
voilà. Donc, du coup, on aurait peut-être qui en ferait partie Elektra,
Ouais.
Falcon, Misty Knight, le Paladin. Et puis, je crois que c'est tout pour le moment.
Donc ce sont des personnages qui ne mourront pas pendant Shadowland.
A priori non. A priori
Voilà.
non.
C'est bien les teasers à l'avance.
Oui. Mais c'est le problème un petit peu de faire des news, au fait, parce qu'on est en plus, on est obligé de regarder les teasers. Peut-être qu'on serait passé à côté si on n'était pas parti sur Comics Weekly pour faire des news. Donc, bah oui, malheureusement, là,
Non, mais c'est en général, quoi. Enfin, je veux dire,
ouais.
voilà, enfin, faut pas être trop intelligent pour mettre 2 plus 2, quoi.
Mmh.
Si Elektra est dans les Heroes for Hire, c'est qu'elle ne meurt pas dans Shadowland.
Oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait faire comme certains, essayer de pas du tout regarder les sollicitations, les news, etc., pour avoir plus de surprises, mais hélas, de toute façon, pour nous, c'est mal barré.
Effectivement, ouais. Encore une autre petite news Marvel. Possible, enfin même, c'est pas possible, c'est un retour des Illuminati dans le Avengers numéro 8.
Ah oui.
Donc avec un joli teaser où on voit Xavier, Strange, Iron Man, Mister Fantastique et Medusa qui remplace
Medusa
Black
qui
Bolt.
remplace donc ouais Black Bolt. Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Encore un teaser
Et
qui
c'est pour
spoil
le
le.
mois de décembre.
Oui. Et ça spoil encore le. Enfin je veux dire le principal de cette histoire, puisque dans l'épisode précédent on sait déjà que Red Hulk va rejoindre l'équipe des Avengers. Donc on n'aura pas de grosses surprises à mon avis pour le reste de l'épisode. Et là, bah voilà, les Illuminati, et on te spoil direct que. À l'époque, il fut un temps où, du coup, on n'aurait pas su que les Illuminati allaient être dans l'épisode, et ça aurait été la grosse surprise. Et voilà.
Apparemment, ça a l'air d'être la cover, donc.
Oui, ben non, mais justement, oui. Mais, enfin voilà quoi. Il y avait une époque où on te montrait que certains éléments, en fait, sur la cover, et qui ont te laissé vraiment le gros du truc dans l'épisode, quoi. Mais maintenant, c'est plus le cas, malheureusement. Et ben voilà, ben on continue juste avec une dernière petite news. À partir du numéro 513, rejoint au scénario Uncanny X-Men Matt Fraction.
Du 513?
Ouais, du 500, non, du 531,
Ah oui.
pardon. 531,
Ça,
j'avais fait les
c'est
maths.
la dyslexie.
Oui, voilà. Je regardais l'image, au fait, en même temps, je regardais la couverture. Donc, Kieron Gillen rejoint, en fait, le scénario de Uncanny X-Men avec Matt Fraction, donc il sera co-scénariste. Bah, peut-être qu'il y a fort à parier que Kieron Gillen devienne, à terme, le scénariste de Uncanny X-Men, sachant que ça s'est déjà fait auparavant. Tu te rappelles, Matt Fraction n'était pas le scénariste. Puisqu'il était co-scénariste avec Brubaker pendant un certain temps,
Ouais,
et il est
mais enfin,
devenu le
ils
scénariste
ont souvent
unique.
travaillé ensemble. Rappelle-toi sur Iron Fist aussi, ils ont travaillé ensemble. Après, Matt Fraction a récupéré le titre aussi, mais ils avaient travaillé ensemble pendant une époque.
Ouais, mais alors est-ce que là on va avoir un passage de torche au bout d'un moment, sachant que Mac Fraction va s'atteler à Thor justement très prochainement, et qu'il devrait rester sur Invincible Iron Man pour le moment?
Ou peut-être que c'est pour virer Gishler et mettre ensuite Kieron Gillen sur X-Men, volume
Ah
3.
ouais, ce qui serait pas forcément une mauvaise idée, parce que je pense que c'est bien de parier sur un nouvel arrivant et un scénariste montant, mais
Bah, qui a
bon.
fait ses preuves hein, finalement avec Thor, mine de rien.
Tu parles de Gillen
De
ou de
Kieron
Gichler?
Gillen.
Oui, non, mais moi je te parle de Gichler
Ah,
par contre,
pardon.
parce qu'ils l'ont placé un peu vite, je trouve, sur en plus un truc vraiment qui, enfin voilà, un nouveau numéro 1 d'X-Men, c'est
Ah
pas
bah le
rien.
mec est passé de Deadpool à
Oui,
X-Men. Voilà.
X-Men est en plus un numéro 1 qui était censé réitérer l'exploit de 91, quoi. On a l'impression qu'on parle de football. L'exploit de 91. Ouais, enfin voilà.
Ouais, ou peut-être que ça apportera un petit vent de fraîcheur aux X-Men, ce serait pas plus mal.
Ouais. Donc bon, bah, à voir ce que ça va donner, sachant que Matt Fraction, pour le moment, est toujours de la partie aussi. Bon, c'est tout pour les
Peut-être,
news.
je pensais peut-être même pas en tant que co-scénariste tous les deux, mais peut-être avec un Mac divisé en deux, avec une histoire principale et un backup, toujours dans le monde des X-Men, justement écrit par Gillen.
Ouais, enfin je suis moins
C'est une
fan du backup, tu
possibilité.
vois.
Ah, ça dépend, hein. Il y a des séries où le backup est meilleur que l'histoire principale.
Oui, mais c'est dommage justement, autant en faire l'histoire principale, tu vois.
Bref, donc
Bon.
voilà, oui. C'était, comme tu disais, c'est terminé pour les news. On va s'attaquer maintenant à la double review de la semaine. C'est Brightest Day numéro 10. Le scénario de Geoff Jones et Peter Tomasi. Les dessins pour ce numéro sont d'Ivan Reis, Scott Clark et Joe Prado. Et à l'ancrage, on retrouve Auclair Albert et David Beatty. Donc, eh bien, ce numéro est vraiment scindé en deux parties seulement, cette fois-ci, avec une grosse partie sur Firestorm et la deuxième partie sur Jackson, le peut-être nouveau futur Aqualad.
Bah, c'est Aqualad, quoi. De toute façon, c'est marqué sur la couverture.
Donc couverture d'ailleurs, ou ce que vous voyez sur la couverture de David Finch, qui est très belle hein, d'ailleurs. Puis j'ai remarqué que sur la série Brightest Day, il s'essayait vraiment à des trucs un peu à la peinture, dans un style différent de ce qu'il fait d'habitude.
Oui, ouais.
En tout cas sur les covers régulières, pas sur les variantes qui sont dessinées par d'autres personnes.
Oui, en tout cas, effectivement, on le reconnaît pas forcément.
Et donc bah là, ce que vous voyez, c'est-à-dire le Aqualad qui est prêt à tuer Deadman, bah oublié parce que Deadman n'apparaît pas une seule fois dans le comic.
Oui, mais non, mais de toute façon, enfin, t'as dû remarquer, donc du coup, il y a beaucoup de couvertures de Brightest Day qui n'ont rien à voir avec le contenu finalement.
Bah, la dernière cover, par exemple, c'était Martian Manhunter et Green Arrow, c'était tout à fait ça. Mais
Oui.
là, c'est pas du tout le cas.
Il y en a d'autres, par exemple, où t'avais Aquaman sur la couverture et en fait, il n'apparaissait que sur une page du comics, par exemple.
Ouais. Voilà.
Donc, voilà quoi. Ça arrive souvent que bon, la couverture ne soit pas vraiment en grand rapport avec ce qui se passe.
Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Donc, comme je disais, la première partie est sur Firestorm. Et bah Firestorm apprend un petit peu ce qu'il, enfin ce que le Dr Stein sait et qu'il lui avait pas révélé jusqu'à présent. Quelle est la véritable essence de Firestorm?
Ouais.
Donc, moi bon, je pense qu'on peut le dire, c'est pas encore trop spoilerisant, je pense.
Oui, enfin, ce serait l'origine du Big Bang, c'est ça que tu voulais dire?
Oui, voilà, en fait c'est l'étincelle du Big Bang.
Oui.
Et que en gros, pourquoi il leur demande toujours de se calmer à eux deux parce qu'ils n'arrêtent pas à s'engueuler entre Ronnie et Jason? C'est que s'ils s'énervent de trop, ils vont trop s'agiter et la matrice va exploser, créant un nouveau Big Bang.
Oui, c'est un peu gros quand même.
C'est un petit peu gros, ouais. C'est un
C'est un
petit
petit
peu
peu
gros.
gros, mais il se passe quand même un truc qu'on
Ben
va pas
oui, parce qu'il
révéler.
y a toujours cette voix dans Firestorm. Et on se demandait qui était cette voix qui leur parlait, qu'ils entendaient tous les deux et qu'on ne voyait pas. Et justement, à la fin, cette voix arrive. Et là, par contre, ça, c'est intéressant.
Oui, voilà,
Beaucoup
surprise.
plus. En plus, je trouve, enfin, le design magnifique, quoi.
Oui, bah un design qui fait penser à quelque chose qu'on a vu tout récemment.
Ah bah c'est clairement ça, hein, pour moi.
Oui,
Enfin,
oui,
mais je veux dire, le design est vraiment superbe, quoi.
oui. Oui. Non, il est
Il y a
très bon.
vraiment un effort de design de fait entre les personnages classiques, les personnages quand ils ont leur costume blanc façon bah, Brightest Day, enfin en tout cas White Lantern. Il y a toujours un effort de design de fait. Et là, justement, pour cette version de Firestorm, il y a aussi un effort de fait. Je me rappelais pas qu'il avait ce costume-là exactement. J'ai pas été vérifié en même temps. Enfin bref.
Oui,
Je voudrais
et
pas trop en
donc,
dire.
oui, et l'autre partie, donc, sur Aqualad.
Ouais, où il apprend un petit peu la vérité sur ses parents.
Ouais, sur ses
Ouais.
origines
Enfin,
et
alors je sais pas si toi tu l'avais senti venir, mais enfin depuis la première apparition d'Aqualad, j'ai senti le truc venir.
Oui, non, moi aussi, ouais. Pas
Donc
trop de surprises de ce côté-là.
c'est pareil, est-ce que là le révéler serait un gros spoiler, sachant qu'à mon avis, tout le monde s'en doute.
Ouais, bah, vas-y, écoute.
Bah, Aqualad est le fils de Black Manta. Wow, super surprise, hein. Je suis sûr que vous êtes tombé de votre siège.
De votre siege.
Oh, quelle vanne.
De merde. Mais oui, non, enfin voilà, donc
Donc voilà. Et bien sûr, donc son père lui explique que comment il a été recueilli par eux. C'est donc Mera qui leur avait apporté l'enfant, en leur disant que ses parents n'étaient pas capables de l'élever correctement. Avec un coffre. Ça fait un peu penser à Superman, hein, quand même. Ce genre confié à des parents adoptifs. Alors là, bien sûr, il y a quelqu'un qui confie, mais là, la différence avec Superman, c'est ça, c'est que Mera est venue confier le bébé. Sinon, enfin, je veux dire, les parents ont le bébé, il y a un coffre qui contient sûrement des informations sur ses origines que lui seul est capable d'ouvrir, comme le vaisseau avec Superman.
ouais, peut-être.
J'ai trouvé ça assez proche, quoi.
Ouais, non, effectivement. Mais enfin bon, dans tous les cas, un épisode 10, tu sais, un peu. Enfin voilà, quoi, ça ne marque pas le coup, il n'y a pas un événement non plus exceptionnel.
Non, puisque bah, je pense que le gros événement risque d'arriver au 12-13, puisque le 13 sera la moitié de la série.
Ouais. Oui,
Non,
ou
mais
pas
bon.
d'ailleurs, hein, puisque de toute façon, c'est assez, au fait, assez, comment dire, dilué tout au long de la série, quoi. Il y a toujours des révélations
Ouais,
par-ci,
chaque
par-là.
épisode, il y a des révélations. Moi, je sais que j'aime beaucoup Brightest Day. J'apprécie beaucoup ce que Jones et Tomasi font sur la série en général. Leur côté remodelage un petit peu de certains personnages et de l'univers DC en général. Je me
Ouais.
demande quand même vraiment où ils vont aller avec ça. Parce que il y a quand même des changements qui sont assez énormes.
Oui, et puis, enfin, ce qui peut être déstabilisant, c'est au fait, effectivement, que ce soit pas comme d'habitude hein, sur des séries comme ça, soit pas forcément des personnages super connus ni super. Enfin, c'est pas les personnages principaux non plus, quoi,
Bah,
de cette manière.
c'est un petit peu. Ça se rapproche pas mal, je trouve, de ce qu'on avait eu sur 52.
Oui, totalement, oui, avec.
Bah dans
Oh,
Countdown aussi, on avait eu des
ouais,
personnages un peu moins
même
connus, mais
sur
c'était moins bien
Countdown,
fait
ouais.
quand même.
Oui.
Beaucoup
Voilà.
moins bien
C'est-à-dire
fait.
que le focus était vraiment donné à, allez, une dizaine de personnages qui n'étaient pas forcément les plus connus et les plus en vue de l'univers de DC, quoi.
Et donc ouais, non, enfin franchement, moi j'apprécie beaucoup la série telle qu'elle est. On se pose à chaque épisode qui passe, on se pose un peu plus de questions. Et on n'a pas toujours des réponses. Ou alors quand on a une réponse, on a deux questions qui nous viennent. Donc voilà.
Oui.
Je sais pas, moi je sais que je vais continuer de suivre jusqu'au bout parce que ou alors il faudrait vraiment qu'il se gaufre sur un épisode pour vraiment tout me faire arrêter, mais c'est mal parti.
Donc il y aura 26 épisodes, hein, c'est bien ça.
Toujours en alternance avec Generation Lost.
Voilà, de ces rescapés de Blackest Night, en fait.
Le petit défaut cependant à Brightest Day, c'est peut-être qu'il y a certains personnages qu'on n'a pas vus du tout dans Brightest Day. Maxwell Lord encore, je peux comprendre, vu qu'il est dans Generation Lost.
Ouais.
Mais Captain Boomerang.
Ah, bah peut-être que ça va venir.
Et le Reverse Flash.
Oui aussi, ouais. Ouais.
Alors c'est
Mais
vrai
ou
que
bien
quand
alors.
on a vu la révélation, la lumière blanche lui disait qu'il avait déjà fait sa part de travail en ramenant Barry Allen. Mais enfin voilà quoi, on ne les voit pas. À part dans le premier épisode, on ne les voit pas.
Ouais, effectivement.
Bizarre. Donc voilà, enfin en tout cas, bon, pour moi, c'est un bail, quoi.
Ouais, moi aussi. Oui, non, mais de toute façon, la série est à suivre, quoi.
Ah oui, c'est clair.
Parce que c'est vraiment de ce qui se fait de mieux parmi l'univers DC actuellement.
Donc on verra comment on va s'en sortir Aqualad, vu que Black Manta et Siren arrivent pour le. Bah pour, je, on ne sait pas trop, est-ce pour le capturer, est-ce pour le tuer, est-ce. Voilà.
Ouais, alors par contre, ce sera pas forcément dans le prochain en fait,
Non,
puisque
bah
tu
non.
as vu que souvent on passait d'un truc à un autre. Ce sera pas forcément le prochain numéro, quoi.
Ce qui crée l'attente, justement.
Oui.
Mais c'est malin de leur part.
Voilà. Peut-être que le prochain sera donné, enfin sera le focus sera sur Martian Manhunter à nouveau ou un autre personnage encore.
Peut-être Hawkman et Hawkgirl qu'on n'a pas vu déjà depuis 2 épisodes.
Ah oui, c'est vrai, oui, aussi.
Voilà. Donc ils sont toujours enfermés sur leur Hawkworld, à se demander un petit peu, voilà. Hawkgirl qui retrouve sa mère, enfin bref. Bon, il y a pas mal de choses intéressantes quand même.
Oui.
Et puis, quid de ce Firestorm?
Oui, en plus, oui, aussi, voilà, faudra voir ce que c'est, quoi.
Donc ouais, pour moi, un bail, quoi. Pas de soucis. Pour la première review solo, c'est toi qui commences, hein, Benny.
Donc, première review solo, ou plutôt première double review solo, puisque je vais en faire deux pour le prix d'une. Donc voilà, donc je vais faire vite. Punisher, non, enfin Marvel Universe versus The Punisher numéro 4. Le scénario est de Jonathan Maberry et les dessins de Goran Parlov. Donc quatrième et dernière partie de cette mini-série qui est sortie assez vite au fait, hein. Je crois qu'il y a eu un numéro toutes les 2 semaines.
Non, je crois que c'est un numéro par semaine qu'il y a eu.
Ah oui, d'accord. Bah alors,
Oui,
autant pour moi.
c'était un hebdo.
D'accord, voilà. Donc une série qui est sortie en hebdo, donc qui sortira sans doute bientôt en TPB. Et donc bon. On retrouve pour cette quatrième partie le Punisher en mauvaise posture, puisque au fait dans les deux numéros précédents, bah, un petit peu comme dans l'histoire dont je parlais l'autre fois, la I'm a Legend avec Bruce Willis, avec Will Smith.
Pas
Oui,
trop le
enfin,
même.
c'est pas trop le même, non. Cherchez la différence. Voilà, donc le Punisher, en fait, elle va croiser la route d'un prêtre et d'un enfant, donc il y a toute une dimension un petit peu religieuse à sa quête, et donc il se retrouve comme dernier homme, en fait, survivant dans la ville de New York, alors que les 3/4 de la population sont infectés par un virus et sont devenus complètement fous. Et il a notamment donc affronté le Spider-Man, en fait, qui était le sujet zéro, quoi, en fait, le premier infecté de cette vague de comment dire, d'infectés, quoi, tout simplement. Et entre-temps, donc, en fait, Spider-Man passe un deal avec lui, c'est-à-dire que il a toujours une espèce de conscience humaine et il lui demande de lui rapporter, enfin, de lui ramener Mary Jane, quoi, en vie, quoi. Mary Jane qui est toujours en vie. Et qui est dans un espèce de camp de réfugiés, au fait, de personnes qui sont toujours non affectées, quoi, par ce virus, et qui est tenue par le Kaïd, au fait. Et donc le Punisher va essayer de ramener Mary-Jane à Spider-Man, et voilà. Donc c'est une espèce de deal qu'il a passé avec lui. Et ben voilà. Donc en gros, c'est l'intrigue de cette dernière partie, une dernière partie qui est un peu décevante, au fait. On s'attendait à beaucoup plus enfin, en lisant les 3 autres premières parties. C'est une fin un petit peu convenue, ce qui est dommage puisqu'il y avait vraiment du potentiel à cette mini-série. Et voilà, donc ils sont vraiment dans un univers qui donne envie d'en lire plus, quoi. Alors, on
Ah,
pourrait
qui sait, il y
faire.
aura peut-être un 2, hein, si ça s'est bien vendu.
Oui. Bah en tout cas, bon, voilà, ça pourrait être une lecture sympathique en TBB, un petit peu dans la mouvance de Marvel Zombies, puisque ce n'est pas Marvel Zombies, c'est un monde différent. D'ailleurs, on le voit d'autant plus dans les parties suivantes, au fait. Ils se sont transformés plus en espèces de gros barbares qu'en zombies, quoi, les gens.
D'accord.
Mais voilà. Donc un épisode de Punisher sympathique et pour une mini qu'il est tout autant, quoi, assez original. Bah pour moi c'est un pas forcément un bail parce que c'est pas non plus gros événement à ne pas rater, mais c'est en tout cas un bon check-it et voilà quoi. En
D'accord.
TPP ou en single. Je passe vite fait à la suite avec le Shadowland Ghost Rider, Rob Williams au scénario et Clayton Crane au dessin. Donc là, au fait, tout simplement, ça se passe. Alors, c'est toujours bien fait avec Shadowland, puisque c'est facile à situer. Ça se passe, au fait, après Shadowland numéro 3. Ça recommence au moment où Ghost Rider revient vers le Kaïd. Donc, quand il monte sur la façade de l'immeuble du Kaïd, ce qu'on voyait donc vers la fin de Shadowland numéro 3. Et au fait, le Kaïd lui confie une mission qui est tout simplement d'aller détruire la main. Et ce que le Ghost Rider met pas longtemps à accepter, puisque au fait le Ghost Rider a des comptes à régler justement avec la main, parce que la main apparemment l'ont manipulé aussi par le passé.
D'accord.
Voilà. Donc bon bah voilà, bon bah l'histoire c'est une espèce de vendetta du Ghost Rider contre la main. C'est assez drôle. Il y a des passages assez marrants. Par exemple, il arrive et puis il arrive enfin avec son apparence humaine et il commence à vomir partout et enfin les soldats de la main s'attendent à l'arrivée d'un grand guerrier et puis ils disent tous c'est quoi cette blague? Ça m'a fait assez rire. Mais voilà, donc bon. C'est sympathique. Les dessins de Clayton Crane collent bien au Ghost Rider. Donc j'ai un peu de mal avec Clayton Crane quelquefois sur les X-Force, mais sur Ghost Rider ça pose pas de problème. Bon, enfin c'est pas une histoire indispensable, hein, cela dit, puisque de toute façon on se doute dès le début que Ghost Rider va un petit peu à contre-cœur, au fait accepter sa mission, puisqu'il a des comptes à régler avec la main aussi. Mais voilà, ça ne fait pas avancer tellement sa situation, quoi. C'est une histoire du Ghost Rider dont on peut se passer, en fait.
D'accord.
Donc sympa, voilà, un check-it, quoi. Check-it.
C'est
C'est
toujours mieux.
sympathique.
C'est
C'est
toujours mieux que
meilleur que
rien.
c'est quand même meilleur que Bullseye, enfin que les autres one shot ou Elektra que tu as chroniqué la semaine dernière, il me semble. Voilà, c'est quand même plus sympathique, c'est assez drôle, ça se lit bien, mais c'est pas indispensable, donc juste un check-it quoi pour ce Shadowland Ghost Rider.
Ouais, c'est vraiment si vous êtes fan du perso, quoi.
Oui, voilà. Et puis oui, voilà, c'est l'occasion de lire du bon Ghost Rider, on n'en lit pas beaucoup. Donc on lit pas beaucoup de Ghost Rider, donc voilà.
D'accord, très bien. Bon, bah, je vais passer à ma première review solo de la semaine. On va du côté d'IDW, cette fois-ci, pour 5 Days to Die numéro 3. Là encore, une série hebdo. C'est un peu la mode en ce moment. Donc, on avait le Punisher versus Marvel Universe. Et il y a aussi, hasard du calendrier, une série assez similaire chez Marvel qui s'appelle One Month to Live, qui est justement hebdo elle aussi. Bon, je ne
D'accord.
l'ai pas lu, hein, donc je ne sais absolument pas si c'est bien ou pas. Donc là, One Month to Live, 5 Days to Die, c'est assez proche.
Oui, faut pas confondre les deux, quoi, c'est surtout ça.
Le pitch étant assez similaire, puisque dans celui de Marvel, c'est un gars qui n'a plus qu'un mois à vivre.
Ouais.
Et dans 5 Days to Die, c'est un mec à qui il ne reste plus que 5 jours à vivre.
Oui, donc ils font plus fort, non, quand même. C'est
Voilà.
plus chaud, disons pour lui.
Ouais, un peu. Je pense que c'est pas du tout le même thème, hein, parce que là, il n'est pas question du tout de super-héroïsme ou quoi que ce soit. Donc le scénario est d'Andy Schmidt, les dessins et l'ancrage sont de Chi.
D'accord.
Donc troisième partie de cette mini-série, donc troisième jour pour ce gars qui s'appelle Ray. Oh merde, j'ai oublié son nom. Ray quelque chose, il a un nom un peu compliqué que j'ai oublié. Merde,
D'accord.
désolé. Donc
Donc
vite
voilà,
fait
bah
pour.
vous pouvez inventer Ray. Donc en plus c'est facile pour inventer un nom à un mec qui s'appelle Ray quand même.
Juste pour vous resituer un petit peu l'histoire, pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi la série, ce personnage, donc Ray, est avec sa femme et sa fille en voiture. Ils se font exploser par un camion qui leur rentre dedans, apparemment volontairement, en tout cas c'est ce que Ray croit, car on apprend que Ray est un flic qui enquête sur un boss local, en fait, un petit peu tout ce qui est mafia, jeux, drogue, meurtre et compagnie. Et il cherche à le faire tomber déjà depuis des années.
D'accord.
Là, ce boss passe en jugement et les preuves apportées au procès font pas de doute, de toute façon, il sera condamné.
D'accord, il passe en mode carnage et il décide de mettre en
Voilà.
application son plan de vengeance,
Donc,
semble-t-il.
voilà, c'est ça. Ray pense que c'est ce boss qui essaye de se venger un petit peu en éclatant avec un camion sa voiture. Sa femme meurt sur le coup, sa fille est dans un très sale état, entre la vie et la mort, et lui décide de passer les 5 derniers jours qui lui restent à vivre, puisqu'il a une blessure, il a un éclat en fait dans la tête, qui fait que avec la pression sanguine, plus il s'agite, plus l'éclat bouge, et plus il a de chances de mourir. Donc s'il s'agite trop, il a à peu près 5 jours à vivre, d'où le titre. Et donc, il essaye de passer ses 5 derniers jours, non pas auprès de sa fille entre la vie et la mort, mais à traquer le gars pour l'éliminer une bonne fois pour toutes.
D'accord. Donc c'est vraiment une histoire de vengeance
Voilà.
assez hardcore quand même.
C'est assez hardcore. Mais les choses sont telles ce qu'elles semblent être.
D'accord.
Puisque, apparemment, ce boss n'est pas du tout responsable de cet accident de camion. Car, ok, il en veut au personnage principal, mais tuer sa femme et sa fille qui n'ont rien à voir, alors que lui-même a une fille, enfin, il peut pas concevoir qu'on touche à sa fille, quoi. Enfin, la fille même du flic, de toute façon. Donc, il
oui,
jure
en
que c'est grand
plus.
Dieu que ce n'est pas lui.
Est-ce que le, est-ce qu'en plus il a toute sa tête, j'ai envie de dire.
Mais voilà, ça peut lui causer des hallucinations, cette blessure. D'ailleurs, on se demande si c'est pas une hallucination qu'il a depuis le départ, puisque dès qu'il se réveille dans sa chambre d'hôpital, il voit quelqu'un au-dessus de son lit prêt à le tuer, qui s'enfuit dès qu'il voit qu'il se réveille.
D'accord.
Donc voilà, cette espèce de plongée dans la folie d'un gars qui n'a plus beaucoup de temps à vivre, qui veut rendre le monde sûr, puisque dans sa tête, c'est je veux tuer ce gars pour bah, pas que ma fille, puisque sa femme est morte sur le coup, pour pas que ma fille soit emmerdée plus tard. Moi, je ne vais pas survivre, mais au moins ma fille sera en sécurité.
C'est pour adultes ou c'est...
C'est clairement pour adultes, oui. De toute
D'accord,
façon,
oui.
Les thèmes abordés sont pour adultes.
Oui,
Il n'y
c'est
a
vrai
pas
que...
trop de violence. Enfin, il y a un peu de violence graphique, mais c'est pas. Non, ça aurait pu être 10 fois pire, hein, franchement.
Oui.
Au niveau du dessin, par contre, c'est assez spécial. C'est presque en noir et blanc. En tout cas, c'est en monocouleur, quoi. Enfin, c'est un mélange de noir et blanc. De temps en temps, on a des pages qui sont plus qui tournent sur une seule couleur, genre le marron ou le jaune. Mais voilà, c'est assez particulier. C'est franchement pas mal. J'espère qu'on aura un bon twist à la fin et que ça va pas finir de façon un peu trop facile. Moi, c'est ce qui me fait peur souvent avec des mini-séries comme ça, c'est que c'est en 5. Et puis bah on s'attend à quelque chose, on a une bonne pression qui monte tout au long, et puis ça finit un petit peu en pouf,
En autre
quoi.
boudin,
Ouais. Donc j'espère qu'on aura un bon twist final.
oui, voilà. C'est ce qui manquait un petit peu avec Marvel Universe versus The Punisher, par exemple.
Voilà, donc en tout cas là, bah, il est clairement dans la merde. Puisqu'il a commencé à buter des gars en pleine rue, quand même, pour arriver à retrouver où était ce fameux boss, bah, les flics le sont à sa recherche, quand même. Tout en
D'accord.
essayant d'éviter de faire des vagues, parce qu'un flic qui devient un tueur, c'est pas très bon dans les médias. Mais
Oui.
son meilleur ami et
C'est pas
celui
très
pour
bon
qui
pour
il était
l'image, disons.
mentor, voilà, le traque et essaye de l'arrêter avant qu'il fasse trop de conneries, quoi. Voilà, donc non, franchement, c'est un bon polar, il y a une bonne ambiance. Maintenant, faut voir comment ça terminera. C'est pas très long, c'est pas très très cher, c'est qu'à 2,99 le numéro, et puis bah d'ici 2 semaines, ce sera terminé.
D'accord.
Donc il n'y aura pas
OK.
non plus super longtemps à attendre.
OK.
Donc moi je dirais que bah c'est un check-it, c'est pas un buy, parce que bon voilà, c'est pas non plus la méga série. Au niveau polar, il y a quand même mieux, faut être honnête. Mais c'est une bonne plongée dans l'esprit d'un gars qui n'a plus rien à perdre et qui n'a plus forcément toute sa tête. Et les conséquences pour les gens qui sont autour. Donc
D'accord.
voilà, un petit check-it. Donnez quand même sa chance à cette série si vous aimez
Ou
bien le
bien
genre.
attendre le TPB, quoi.
Ouais, ou
Si
peut-être, ouais, si t'es tombé
le
dedans.
final vaut le coup, bon, à voir, hein, mais... Eh ben, je vais passer à ma dernière review solo. Donc, on reste un petit peu dans le même style, puisque c'est Morning Glories numéro 2. Le scénario est de Nick Spencer, les dessins de Joey Esma, et
Et
la
c'est chez
couverture...
Image.
Oui, c'est chez Image, et je précise la couverture quand même, puisqu'elle est de Rodin Esquero, et au fait, quand on voit la couverture, on s'attend à quelque chose d'autre, au fait. T'en avais parlé l'autre fois, mais c'est vrai que les couvertures de Morning Glories donnent un petit peu envie, et les dessins à l'intérieur, c'est pas terrible, terrible, quoi. C'est pas terrible, terrible, hein. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, t'avais reviewé le premier.
Le style, ouais, le style est particulier, hein. C'est assez
C'est
spécial.
un peu, voilà, c'est un peu du Avatar. Bon, enfin voilà, c'est pas, enfin voilà, c'est un dessinateur qui, à mon avis, a encore un petit peu de marge pour devenir un grand, on va dire, de la BD. Ce qui est dommage, puisque le scénario est toujours sympa. Donc, Morning Glories, qu'est-ce que c'est? Peut-être une série dont on va entendre parler encore quelques temps. Parce que grosso modo, donc c'est une sorte de X-Men, enfin d'académie de X-Men, dans laquelle il se passe des trucs très très bizarres. Et là, donc grosso modo dans cet épisode, la prof, une sorte d'Emma Frost en plus psychopathe, leur fait passer un test. Donc je vais pas te révéler ce que c'est le test exactement. C'est un petit peu ce qu'on voit sur la couverture, quoi. Ça donne déjà bien une idée de l'ambiance. Et sinon, bah, on apprend un petit peu ce que chacun des, enfin comment chacun des étudiants est arrivé, au fait, dans le, pas dans l'école, mais dans le groupe, au fait, d'étudiants en observation, on va dire.
D'accord.
Voilà. Puisque apparemment ils ont tous des facultés particulières, enfin, semble-t-il, mais surtout ils sont tous là pour une raison bien précise que l'on ne connaît toujours pas. Mais en tout cas, tout cela a l'air bien glauque.
Et on voit leur faculté un petit peu ou pas du tout dans cet épisode? Parce qu'on n'en parlait pas du tout dans le premier épisode, en tout cas, de leur faculté à chacun.
Non, non, mais au fait, on imagine que voilà quoi, qu'ils ont quelque chose de particulier pour avoir été sélectionnés. Pour le moment, on ne sait pas trop hein, s'ils ont des pouvoirs ou quoi que ce soit. Mais enfin, c'est une spéculation de ma part, quoi. Mais en tout cas, là, voilà quoi. Ils sont mis à rude épreuve et on voit à travers donc des flashbacks comment, au fait, enfin pourquoi ils se sont retrouvés dans cette situation-là, quoi.
D'accord.
Ouais. Ils sont allés fourrer un petit peu leur nez dans les, dans comment dire, dans des choses qu'ils auraient pas dû voir à propos de cette école. Donc voilà, enfin c'est toujours intrigant, c'est très glauque, ça fait penser un petit peu à Battle Royale en fait. C'est un petit peu, oui, ça me vient un petit peu de Battle Royale chez les X-Men quoi en fait. C'est un petit peu à la croisée de ces deux chemins. Donc c'est sympathique, c'est franchement une série à découvrir. Mais alors reste à voir si au fait ça va continuer à être aussi attrayant pendant longtemps. A priori donc c'est un ongoing hein, c'est ça.
Ah c'est un ongoing, oui.
Donc voilà. Donc
oui, je sais que j'avais adoré le premier épisode, j'ai pas encore eu le temps de lire le deuxième donc.
Bah, c'est d'ailleurs que le premier était sympa. Faut voir ce que ça donne là. Le deuxième traîne un peu plus en longueur je trouve.
D'accord.
Voilà. Donc ça se termine sur un petit cliff à propos de l'un des étudiants. C'est intriguant. Enfin, faut voir ce que ça donne.
Bien. Donc, verdict, un check it.
Un check it. C'est vrai. Donc, c'est une série quand même à surveiller. Alors, résolument adulte, hein. C'est pas à mettre entre toutes les mains.
Ah oui, c'était graphique. Hein. Déjà, le premier épisode était assez graphique.
Celui-là, beaucoup moins. Mais bon, ça reste glauque. L'ambiance est toujours bien sombre. Voilà. Donc pareil, un check it, une série dont on reparlera, dont on entendra parler à mon avis encore dans les prochains mois.
D'accord, très bien. Bon, de toute façon, moi, quoi qu'il arrive, je vais lire le deuxième, vu que j'avais tellement aimé le premier, mais j'avais pas eu le temps là pour cette fois-ci. Je termine les reviews solo avec Green Lantern Emerald Warriors numéro 2. Alors, le premier numéro était assez intéressant. Est-ce que ce numéro 2 va l'être autant? Eh ben, réponse tout de suite.
Eh ben, réponse la semaine prochaine.
La bonne blague. Scénario de Peter Tomasi, dessin de Fernando Pasarin et ancrage de Cam Smith. Bah déjà, on en apprend plus sur ce fameux ennemi qu'on avait à la fin du numéro 1, qui était un truc dans les secteurs inexplorés, qui connaissait les gardiens de l'univers. On apprend même qu'il a travaillé pour eux. Bref, une sorte de Larfleeze 2, quoi.
Ouais, d'accord.
Sauf que celui-ci est quand même bien taré. Et surtout, c'est vraiment super crade. Il y a une scène dégueulasse de serpent qui bouffe des yeux.
Ah oui, d'accord.
Avec des gerbes de sang. Enfin, c'est quand même super crado.
Avec ce fameux personnage qu'on voyait à la fin avec ses serpents, quoi.
Voilà, c'est ça. Serpent qui lui sortent de la bouche, d'ailleurs.
D'accord. Oui, pour ne rien gâter, voilà. Ouais. Pour rajouter un petit peu d'un côté graphique à la chose, quitte à ce que ça lui sorte de la bouche.
Voilà, exactement.
J'allais dire, ça aurait pu ressortir d'ailleurs, mais ça reste quand même un truc pour les enfants.
Là, moi, ces scènes-là, je les mettrais pas devant les yeux des enfants.
Ouais,
parce que c'est quand même vraiment explicite.
Enfin, bon,
d'ailleurs, le style de Pasarin s'améliore d'épisode en épisode.
D'accord. Ouais. Bah déjà, le premier était bien. Hein.
Le premier était bien, mais là, il a encore haussé son trait. Il prend l'habitude des personnages. On voit qu'il les dessine de mieux en mieux. Et non, franchement, d'ici quelques épisodes, ça va être encore meilleur, je pense.
D'accord. Bah, espérons qu'il reste sur la série longtemps, alors.
Ouais, espérons. On en apprend un petit peu plus aussi sur son plan, donc à cet ennemi, qui, d'ailleurs, on a son nom. Il s'appelle Zardor. Et il viendrait de Kralok.
On dirait un sketch. Je suis Zardor de Kralok. Ok, d'accord.
Bon, du côté des Green Lantern, on voit un petit peu Kilowog, hein, puisqu'il est censé faire partie de cette série, donc ça y est, on le voit enfin. une jeune recrue qui vient le voir en disant bah, c'est dommage que vous soyez plus sergent instructeur parce que
On se
partout j'ai
marrait bien.
entendu dire que vous étiez le meilleur des meilleurs machin. Et bah, Killua qui lui gueule dessus en disant casse-toi, je veux pas te voir.
Oh.
Parce
Surtout
que
que Kilowog qui gueule sur quelqu'un, ça doit être quand même assez effrayant.
ouais voilà. En fait, c'est parce que Kilowog en a marre de voir des jeunes recrues mourir quoi. Les entraîner, faire ami-ami avec eux et les voir mourir voilà comme bah, comme de la chair à canon, comme il a pu voir déjà depuis bah, depuis Sinestro Corps, depuis Blackest Night, enfin tout ça quoi. Il y en a vu un
Oui.
paquet de jeunes recrues se faire dézinguer.
Un petit
Donc
peu,
voilà.
à peu près environ dans chaque épisode, au fait.
Voilà, mais
Pour
c'est
faire une
aussi pour ça
moyenne.
qu'il a arrêté le fait d'être sergent instructeur, quoi. Ça, il en avait ras-le-bol.
Oui.
On voit aussi Aricia qui essaye toujours de, bah, de supporter la mort de Sodamiat, qui a un rêve assez étrange où Sodamiat vient lui faire sentir ce que c'était la chaleur du soleil quand il est mort.
Un rêve assez chaud, assez épicé. Normal pour
Et
quelqu'un qui s'appelle Aricia.
elle est... Oh, oh là là, je l'ai pas vu venir celle-ci.
T'as vu ça un petit peu, hein. Green Lantern m'inspire en général sur les blagues pourries. Faudrait en faire des reviews plus souvent.
Et du coup, elle est persuadée que Sodamiat est toujours en vie.
D'accord.
Bref, Guy Gardner se prépare à partir pour les secteurs inexplorés.
Ah
Et
oui, c'est vrai, les fameuses.
Kilowog et Aricia se joignent à lui en lui disant, on a été voir les gardiens et on lui a dit que ce serait peut-être pas mal que tu aies un petit peu de renfort avec toi au cas où ça se passerait pas bien. Lui est
Oui.
pas trop chaud, mais ils lui disent de toute façon, t'as pas le choix, les gardiens ont dit qu'on devait t'accompagner dans la mission. Donc
Oui, et
finalement, c'est à trois qui partent.
on se doute que ça va de toute façon mal se passer.
Mais avant de partir vraiment pour les secteurs inexplorés, deux petits détours à faire.
Ouais.
Aricia veut absolument faire un détour par Daxam afin de vérifier si,
Sodamiat
si
est toujours
Sodamiat
là.
est toujours en vie ou pas. Chose à laquelle veut s'opposer Guy, puis il s'oppose pas vraiment longtemps, finalement.
D'accord.
Et le premier détour est pour la planète Odim, la planète des Blue Lanterns, car bah, on l'avait vu dans le dernier épisode où Guy crachait encore du sang façon Red Lantern, vu qu'il avait été possédé pendant Blackest Night. Et justement, les Blue Lanterns sont capables de bah justement de le désinfecter un petit peu de cette de tout ce pouvoir rouge qui est encore en lui. Et donc
Ah
il
oui,
veut
c'est comme les
justement.
herbes bleues dans Resident Evil.
En tout cas, il veut aller bah justement se faire soigner et faire sortir de son corps toutes ses impuretés, quoi.
D'accord.
Donc, ils arrivent sur la planète Odim, mais là, les choses vont pas forcément se passer exactement comme ils l'avaient prévu. Voilà.
Oui, tu
Je n'en dirai
m'étonnes,
pas plus.
sinon ce serait pas drôle. Donc il y a
Mais
Monsieur
bon,
Serpent qui arrive.
la couverture répond malheureusement à la question avant même qu'on l'ait lue.
Ah d'accord. Un petit point négatif, mais
Encore une
ça reste
fois,
quand même bon. Même
mais
très
par
bon.
contre, oui, c'est du bon. Pour moi, c'est un bail. C'est vraiment, on sent le côté, enfin, c'est vraiment très proche de ce qu'était Green Lantern Corps écrit par Tomasi. Il a vraiment la plume qu'il avait dans Green Lantern Corps, avec des personnages qui sont excellents. Enfin, Kilowog, Guy Gardner, Aricia est un peu moins ma tasse de thé, mais bon, enfin, déjà rien qu'avec un tandem comme Kilowog et Guy Gardner, c'est forcément bon. Et puis bon, cette menace qui me fait un peu peur parce que j'ai peur que ce soit un peu de la redite, l'ennemi qui a été avec les gardiens, mais qui a été exclu. J'ai un peu peur que ce soit un peu trop facile, mais bon, ça reste quand même intriguant.
Mais alors j'ai une
Surtout quand on
question,
voit son plan.
d'accord, j'ai une question à te poser aussi. Donc il y a trois séries Green Lantern actuellement. Si tu devais en choisir une ou faire un classement, tu ferais quoi? Quelle
Oh
est la
putain,
meilleure? Quelle est
c'est
la moins
difficile.
bonne?
Le truc, c'est que bah, Green Lantern continue de faire avancer un petit peu l'histoire de Brightest Day, de son côté. Green Lantern Corps, là, bon, là j'ai pas lu le dernier qui est sorti, je suis un petit peu en retard de ce côté-là. En tout cas, le premier arc de Tony Bedard, moi je l'ai trouvé pas mal.
Ouais.
C'est pas forcément le résultat que j'ai vu un petit peu sur le net. Mais bon voilà, puis bon, la série est quand même mythique, il y a quand même encore des personnages très intéressants dedans. Donc franchement, faire un classement, ce serait difficile, quoi.
D'accord. Mais en tout cas, donc tu conseilles vraiment les trois, quoi.
Mais je conseille les trois qui ont chacun leur ton différent, vraiment. On a les
D'accord.
fortes têtes dans Emerald Warriors, on a le classique dans Green Lantern, et puis on a le restant dans Green Lantern Corps, sans pour autant que ce soit mauvais.
Mais Hal Jordan est toujours le personnage principal de Green Lantern, on est d'accord.
Toujours, oui.
Très bien, ok.
Voilà, donc
En tout
pour
cas,
moi, c'est un mal.
ça donne envie.
Bah, moi, je le conseille, franchement.
Ouais, d'accord.
Bien,
Bon,
bah,
adieu.
c'est tout pour cette semaine de review. Je t'ai sur un Comic City, c'est parti. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, tous les anciens épisodes sur iTunes. Vous pouvez nous laisser un message sur notre répondeur au 09 70 440 497. Et bah, bien sûr, par mail à l'adresse podcast@comiccity.fr. Bah, on va se quitter comme chaque semaine avec le mot de la fin de Benny.
Oui, un petit mot de la fin qui est classique et qui reste vraiment dans les comics. Je dirais simplement pim pam poum.
À la semaine prochaine, à bientôt.